Vivre FM
Podcast.
Vous écoutez La vie des associations sur Vivre FM.
Les micros de La vie des associations sur Vivre FM sont tournés vers le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Et pour représenter le CERTAM et pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez leur poser concernant les nouvelles technologies et les appareils disponibles pour les aveugles et les malvoyants, Fernando Pinto da Silva, bonjour Fernando.
Bonjour Benjamin.
Et Jean-Pierre Carpanini, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors déjà des questions, hein, pas mal, hein. On va en parler. C'est vrai que c'est le moment de Noël aussi, alors il y a peut-être aussi la possibilité pour les uns et les autres d'acquérir des appareils, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui se dit en ce moment concernant le CERTAM, en tous les cas, quant aux nouvelles technologies, il y a beaucoup de nouveautés justement pour Noël ?
Alors, il y a toujours beaucoup de nouveautés tout le temps, donc forcément en ce moment il y a aussi de nouveaux produits qui viennent de sortir, de nouvelles versions qui viennent de sortir. On a beaucoup d'interrogations aussi parce que voilà, les gammes de produits évoluent. Et donc du coup ça suscite toujours un peu des tas de questions des utilisateurs potentiels. D'où le fait qu'aujourd'hui on se soit dit que plutôt que de venir avec une thématique qu'on essaye de traiter avec vous, on avait vraiment envie d'ouvrir les micros aux auditeurs ou en tout cas de laisser... libre cours, je dirais, aux différentes questions pour pouvoir essayer de répondre à quelques thématiques sur des points extrêmement précis.
Vous avez été surpris justement par les questions. Il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées. Vous avez été surpris par le type de questions ou vous vous dites que vous y attendiez ?
Non, dans l'ensemble, ce sont des questions qu'on a régulièrement, soit à l'association Valentin 8 quand les gens nous appellent, soit par courrier électronique. Donc je dirais que non, elle reflète globalement des questions qu'on a à traiter souvent.
Ce sont les nouvelles technologies. On va le voir tout de suite, hein, d'ailleurs, parce que nous avons un auditeur qui nous arrive de Belgique, dites donc. Bonjour, quel est votre prénom ?
Mon prénom est Francis.
Bonjour Francis.
Oui, bonjour.
Fernando et Jean-Pierre vous entendent et vous allez pouvoir lui poser, ou leur poser plutôt, votre question.
Eh bien, c'est très simple. Je viens de me faire voler mon téléphone portable, c'est très courant.
Ça, c'est pas sympa.
Et j'en profite pour le remplacer par quelque chose de simple, de pratique, avec un modèle courant qui soit au maximum vocalisé et dont le clavier ne soit pas trop réduit, parce que j'ai remarqué que souvent on tend vers de toutes petites touches. Voilà.
Vous aviez déjà ce type d'appareil ?
J'avais ce qu'on appelle en Belgique un GSM simple qui me satisfaisait fort bien, mais je me dis qu'il y a peut-être mieux aujourd'hui, voilà.
Alors, Fernando, Jean-Pierre, qu'en dites-vous ?
Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, quand Francis, bonjour, vous nous dites qu'effectivement, les claviers ont tendance à se réduire, ils ont même parfois tendance à disparaître.
Carrément. Oui.
D'où le fait qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de téléphones avec des interfaces complètement tactiles. Je dirais qu'après, ça dépend beaucoup du degré d'efficience visuelle, en tout cas...
Moi, je suis non-voyant,
c'est ça. Vous êtes complètement non-voyant, d'accord, très bien. Donc, vous utilisez sans doute un GSM avec un logiciel de vocalisation, sans doute ?
Même pas. Je me contentais de... une voix qui me donnait les directives importantes. Par exemple, consulter mes messages enregistrés, etc. Mais c'était tout.
Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver ce type de téléphone, effectivement. On a des solutions comme par exemple celle proposée par le Swiss Gold, avec la référence Alto 2, que vous connaissez peut-être. Qui est un téléphone qui a des touches assez faciles à trouver et de la vocalisation. Ensuite, selon vos besoins, on peut aller vers d'autres types de téléphones qui sont en réalité des téléphones tactiles, mais adaptés avec une grille qui donne le sentiment d'avoir un clavier, comme ceux de Telorion. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Non.
Donc c'est une solution qui repose sur un Galaxy S3 qui adapte une espèce de grille donc par-dessus pour que les gens puissent...
Une sorte de coque ?
Voilà, c'est une sorte de coque qui habille le téléphone pour que les gens puissent avoir le sentiment d'avoir des touches, même si en réalité c'est que du tactile. Simplement, c'est une façon d'adapter ces terminaux tactiles qui sont de plus en plus présents. En
fait. Ça, c'est l'avenir. Ça veut dire que des téléphones à touches, à proprement parler, il n'y en aura plus bientôt, hein.
Il y en aura de moins en moins, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a encore quelques gammes, notamment chez Doro, pour les personnes plutôt malvoyantes, donc qui ont encore un reste visuel important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché il va plutôt au tactile de toute façon. Ça ne veut d'ailleurs pas dire que ce ne soient pas des solutions qui soient utilisables par des déficients visuels, mais dans le cas de la question qui nous est posée par l'auditeur, ça semble ne pas répondre à ce qu'il cherche.
Donc pour Francis, vous pensez à un téléphone du type Telerion, ça serait pas mal, par exemple? C'est ça, hein, Fernando?
Ça dépend des besoins. L'Alto est beaucoup plus simple et répond, je dirais, à des besoins plus basiques. Le Telerion, par exemple, est beaucoup plus avancé en termes de fonctionnalités. Il a un GPS intégré, il a un lecteur de livres, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Et le prix n'est pas le même non plus.
C'est ça. Justement, par rapport au prix, ça peut peut-être parler davantage à Francis, pour le coup?
Alors, on ne connaît pas forcément le catalogue de tous les distributeurs, et certainement pas en Belgique. Mais je dirais que l'Alto 2 doit être aux environs de 150 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et le Telerion, on est de l'ordre plutôt de 600 euros.
Et dans le cas des deux téléphones, tout ce qui est vocalisé ne passe pas par un opérateur qui vous offre une synthèse vocale, mais c'est intégré dans le téléphone.
Dans le cas de ces deux machines-là, oui.
D'accord. Francis, oui. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse qui a été donnée par Fernando?
Oui, juste une précision. Vous disiez que le Doro est plutôt réservé aux malvoyants qu'aux non-voyants. Est-ce que, éventuellement, qu'est-ce qui empêche un aveugle de l'utiliser, le Doro?
Absolument rien. Simplement, c'est vrai que les Doro sont plus mis en avant, notamment pour l'accessibilité de leur écran. Et il y a peu de vocalisation sur les Doro, en fait.
Ah oui, d'accord.
C'est simplement ça qui fait qu'effectivement, on parle plutôt de malvoyance.
Voilà, merci Francis. Beaucoup. Vous voici armé pour posséder un nouveau téléphone. Essayez de ne pas vous le faire piquer. C'est pas très agréable. Et puis, bonne fête de fin d'année, hein, avec
merci
un nouveau téléphone.
Vous aussi, merci infiniment.
Merci Francis. Le CERTAM est avec nous jusqu'à 11h et il est bien évident que vous avez la parole. Si vous voulez leur poser des questions, leur poser parce qu'ils sont deux, Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini, ils sont là pour vous répondre. 01 56 88 40.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
C'est le jour de notre rendez-vous mensuel avec le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini sont avec nous pour répondre à toutes vos questions qui concernent les nouvelles technologies. J'aimerais, c'est ainsi que vous aussi, je sais que vous aimeriez, qu'on parle encore un petit peu des téléphones tactiles, parce qu'effectivement, ça fait partie des grands, des nouvelles technologies qui sont très courues par les aveugles et les malvoyants. Et il y a une infinité de possibilités.
Oh, et pas que par les aveugles et les malvoyants.
Aujourd'hui,
on est beaucoup de toute façon dans une société qui consomme de plus en plus de produits mobiles, que ce soit des smartphones, que ce soit des tablettes. Et effectivement, la question qu'on a eue de Francis tout à l'heure est intéressante, parce qu'on a abordé du coup l'aspect téléphonie à touche, qui a tendance effectivement à disparaître. Pour autant, ça ne veut pas dire que les téléphones tactiles soient inaccessibles aux déficients visuels. On parle beaucoup et depuis 4 ans déjà de l'accessibilité des iPhones. On a déjà eu l'occasion d'ailleurs de l'évoquer à ce micro. Mais pour dire les choses encore autrement, un iPhone, c'est un produit qui comporte en soi plusieurs couches d'accessibilité, dont une couche d'accessibilité pour les déficients visuels, qu'on peut activer très simplement dans les réglages. En particulier en faisant normalement la combinaison 3 clics sur le bouton du menu principal, ce qui déclenche ce qu'on appelle VoiceOver. VoiceOver étant le lecteur d'écran fourni par Apple dès qu'on achète un iPhone.
Et de très bonne qualité, il faut le préciser. Hein.
Absolument, ouais. Avec une voix de très haute qualité, de chez Nuance, qui fonctionne bien, avec une gestuelle qui est du coup adaptée. Dès qu'on déclenche ce lecteur d'écran, la gestuelle n'est plus la même que celle utilisée d'habitude par une personne voyante. Donc là, c'est une gestuelle adaptée qui se met en place. Et j'aimerais d'ailleurs rappeler ici que ça permet également de connecter certains terminaux braille en Bluetooth, ce qui permet même à une personne aveugle d'avoir accès à ces informations en braille sous les doigts, tout simplement.
Vous faites bien de préciser ça, parce qu'on a une question de Christian de Toulouse. On peut vous la poser?
Oh ben on peut tout à fait en discuter maintenant. Alors,
justement, comment faire quand on a un iPhone et une plage braille Focus 14 pour prendre des notes et pour lire des livres en français ou même dans d'autres langues, d'ailleurs?
Alors, il y a deux questions dans la question qui nous est posée par Christian. Comment prendre des notes? C'est vrai que c'est un sujet un peu difficile, parce que l'application qui est native, qui permet de prendre quelques notes et pas vraiment conçu pour faire de longs documents. Et je pense que la question de Christian, c'est vraiment plutôt comment se servir de son iPhone, comme si, s'il y avait un vrai traitement de texte. Il y a plusieurs réponses qui ne sont pas toujours satisfaisantes. L'une d'elles, c'est d'utiliser un petit logiciel qui s'appelle Nebulous, qui est en fait une espèce d'éditeur de texte qui est connecté au service Dropbox, qui est un service de cloud où on va pouvoir du coup taper directement, ça va s'archiver dans Dropbox et on va ensuite pouvoir, avec un PC, remettre en forme. Alors là, normalement, on va me dire, bah oui, mais c'est pas ce que je cherche, je voudrais faire de la mise en forme directement à partir de l'iPhone. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est assez difficile. On peut sinon essayer d'utiliser le logiciel Pages de chez Apple, qui est également disponible donc pour iPhone et iPad, mais c'est pareil, c'est pas toujours très simple. Selon certaines configurations, on peut d'ailleurs avoir des choses qui s'affichent plus ou moins bien en braille, donc c'est pas toujours
c'est pas vraiment
facile.
Adapté tout ça.
Et encore une autre application de prise de notes que j'ai découverte il y a peu de temps, qui a été faite là pour le coup par une association américaine, donc qui n'est pas en français, une association américaine pour les déficients visuels qui s'appelle American Foundation for the Blind et qui s'appelle Access Note, qui est pas mal du tout, qui permet de faire un certain nombre de choses. Par contre, voilà, l'interface est en anglais. Et pour ce qui est de la lecture de livres en braille, aujourd'hui, je pense sincèrement que la meilleure application dans le domaine pour de la lecture en braille, hein, j'insiste bien, c'est iBooks, donc, qui est proposé par Apple, qui permet de charger des EPUB. Et dans le cas posé par Christian, lorsqu'on a une Focus 14 connectée en Bluetooth, ça permet notamment de faire défiler assez facilement les pages. Lorsqu'on est en train de lire du braille pour passer d'une page à l'autre, c'est assez confortable.
J'allais justement poser la question. C'est confortable.
Oui. Enfin, en tout cas, par rapport à d'autres applications qu'on a pu tester, c'est sans doute de loin celle qui aujourd'hui, pour une lecture braille, j'insiste bien là-dessus, reste la plus confortable. Si on parlait de lecture audio, on pourrait parler d'autres applications comme Voice Dream, par exemple, qui est vraiment très bien. Mais là, dans la question qui nous est posée par Christian, je pense qu'iBooks reste encore pour le moment la meilleure solution.
Et parce qu'on imagine qu'à partir du moment justement où on lit en braille, évidemment, il n'y a plus question de synthèse vocale quand même. Hein, on peut désactiver tout.
On peut désactiver tout fait la synthèse vocale, c'est une espèce de problème.
Et ça reste confortable. On peut lire assez vite en braille sur une plage braille, justement.
Alors, on peut lire d'autant plus vite que pour ceux qui maîtrisent le code de braille abrégé, il faut savoir que VoiceOver gère l'abrégé français. Donc, on peut tout à fait enchaîner et lire en braille abrégé.
Très bien, Christian. J'espère que nous avons correctement répondu à votre question. Et des questions, il peut encore en pleuvoir. On a encore un petit peu de temps pour ça. Il peut pleuvoir des questions. Au 01 56 88 40 20, Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini du CIRSTAM seront heureux d'y répondre.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Vivre FM, comme chaque mois, donne la parole au CIRSTAM. Le CIRSTAM, c'est le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Jean-Pierre Carpanini et Fernando Pinto da Silva sont avec nous pour répondre à vos questions. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du système Android encore. Je vous ai coupé l'herbe sous le pied, comme vous le disiez tout à l'heure.
Alors,
je vous ai retiré le pain de la bouche.
On a embrayé effectivement directement sur l'iPhone. Il n'y a pas que l'iPhone qui est un téléphone accessible de façon tactile. On continue à voir des choses émerger sous Android, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, notamment sur les téléphones Nexus 5 commercialisés par Google, qui ont eux aussi également donc un logiciel de lecture d'écran qui s'appelle TalkBack, qui est également activable d'usine, il n'y a rien à rajouter en plus, et ça fonctionne plutôt pas trop mal.
C'est-à-dire si vous pouvez afficher une préférence, ou vous dites malgré tout, la lisière vaut le drap, comme on dit, bonnet blanc et bonnet rouge, mais je ne sais pas si on peut parler rouges en ce moment.
Je dirais qu'aujourd'hui, pour être très clair, les systèmes sous iOS sont quand même sans doute plus accessibles, mais TalkBack sous Android est en train de rattraper chaque fois plus rapidement son retard sur son rival, et avec en plus même des choses qui n'existent pas sous iOS en termes de gestuelle, qui sont vraiment intéressantes. Donc ça, nous, on continue à tester, et on dit que quand même ce sont des solutions qui peuvent être utilisées. Après, ça va dépendre des goûts des uns et des autres. Et enfin, sur les systèmes tactiles, j'aimerais aussi évoquer quelque chose dont on parle moins. C'est que Microsoft a sorti récemment des tablettes qui tournent sous Windows 8 Pro. Et qui dit Windows 8 Pro dit qu'on peut installer des lecteurs d'écran, puisque là, malheureusement, pour l'instant, Microsoft n'inclut pas encore de lecteurs d'écran d'usine dans son système. Et on peut donc du coup installer par exemple le logiciel JAWS dans sa version 15. Alors évidemment, cette version n'est pas encore publique, mais on l'a déjà vu tourner en démonstration sur ce type de tablette et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une tablette tactile avec une gestuelle dédiée avec son JAWS habituel et on pourra même du coup y adapter un clavier de façon à pouvoir piloter cette tablette avec un clavier et se déplacer facilement.
Oui, mais ça donne un coût supplémentaire à la tablette parce que le JAWS, c'est quand même pas donné, à moins que vous me disiez pour le coup que l'application, le logiciel, là, dans le cas de la tablette, ce soit beaucoup moins cher.
Non, en l'occurrence, c'est exactement le même logiciel. Donc là, effectivement, vous avez raison, Benjamin, c'est-à-dire que là, l'utilisateur va devoir avoir une licence de JAWS. Donc effectivement,
le mettre coût, la main en porte-monnaie. Hein.
Le coût, effectivement, va s'en sortir impacté, sauf s'il a déjà une licence pour son ordinateur, auquel cas du coup, là ça peut peut-être être intéressant. S'il a déjà une licence par ailleurs, bah du coup ça lui fait coup double.
D'accord. Voilà.
Et juste, c'est intéressant de le mentionner parce que du coup ça veut dire un troisième système d'exploitation qui peut être utilisé sur le cas, là pour le coup des tablettes, hein. J'insiste bien sur les tablettes et c'est pas sur de la téléphonie pour le moment.
D'accord. On continue à explorer les bah, différentes questions que vous avez reçues vous-même. Je sais que à partir du moment où vous avez décidé de répondre aux auditeurs de Vivre FM, vous-même, vous avez reçu un certain nombre de questions.
On a reçu quelques-unes. Là, je parlais justement de Windows 8 Pro. J'ai dit un gros mot. J'ai dit Windows 8.
Oh.
Beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui sur l'accessibilité de Windows 8.
C'est normal qu'on se pose des questions, je veux dire, ou alors vous allez pouvoir dire non, c'est plus la peine de se poser de questions, il n'y a pas de problème, Windows 8, c'est tout à fait accessible, toutes les solutions sont dans le logiciel.
Bah, en tout cas, c'est normal qu'on s'en soit posé, puisque le système changeait complètement de look pendant plusieurs mois. Nos logiciels habituels de revue d'écran n'ont pas été compatibles avec certaines mises à jour de Windows 8, par exemple. JAWS n'était pas compatible à un moment donné, ZoomText pour les malvoyants non plus. Donc c'est normal qu'on se pose ce genre de questions. Moi, j'aimerais quand même rappeler que sur ce système, contrairement à d'autres systèmes, il n'y a toujours pas de lecteur d'écran intégré. Il y a ce qu'on appelle le narrator, mais qui n'est pas un lecteur d'écran, qui est une couche d'accessibilité intéressante, vocalisée, mais qui ne permet pas, en tout cas, de vocaliser complètement tout le système. Donc on est encore aujourd'hui obligé d'installer un lecteur d'écran, soit gratuit, soit payant. Gratuit, il y a NVDA, qui est vraiment très utilisable avec Windows 8, et qu'on peut vraiment avoir pour tout un tas de besoins, je dirais, bureautiques, personnels, qui fonctionnent impeccablement bien. On peut également aujourd'hui installer JAWS 14, par exemple, sous Windows 8. Ça fait partie des choses qu'on peut utiliser. Côté Basse Vision, peut-être que Jean-Pierre, tu peux compléter éventuellement.
On a une dernière version de ZoomText qui est maintenant compatible avec Windows 8.1. On a eu une mise à jour majeure de Windows et un passage de la version 8 à la version 8.1 qui posait de nombreux problèmes avec les logiciels d'agrandissement. Que ce soit Supernova ou ZoomText. Supernova réagit assez rapidement avec une version 13.52 ou 53, si je ne me trompe pas. Et ZoomText l'a suivi avec une version qui était compatible. Donc on a maintenant effectivement des solutions d'agrandissement qui sont compatibles avec les dernières moutures de Windows 8.
Très bien. Vous avez des problèmes, ils ont les solutions. En tous les cas, ils peuvent répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser, ces questions, aux membres du CERTAM qui sont avec nous aujourd'hui, par le biais du 01 56 88 40.
Vous écoutez La Vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux éminents représentants du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Les éminents représentants en sont Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini. Vous pouvez poser vos questions, évidemment. Il y a des questions qui se posent concernant les possibilités d'agrandissement quand on a une tablette, quand on a un iPhone ou quand on a un téléphone, un smartphone sous Android. Est-ce qu'il y a des systèmes d'agrandissement pour les personnes malvoyantes?
Alors, on a souvent deux types de demandes. Est-ce qu'il existe des systèmes d'agrandissement pour pouvoir utiliser mon appareil? Et là, la réponse est oui pour les deux principaux leaders du marché, que ce soit les plateformes sous iOS, hein, donc iPhone, iPad, etc., ou les systèmes sous Android. Sous Android, c'est d'autant plus vrai que les dernières versions incluent donc un zoom par une gestuelle. On peut avoir accès, quelle que soit l'application, à un agrandissement de l'écran.
Alors vous dites bien système, ça veut dire téléphone, tablette hein, également.
Téléphone, tablette. Là, on parle vraiment du système d'exploitation qui va équiper ces appareils mobiles. Donc pour tous les appareils de Apple, hein, tous les appareils mobiles de chez Apple, c'est le système iOS. Et dans l'accessibilité, dans les réglages d'accessibilité d'iOS, tout comme on a un lecteur d'écran qui s'appelle VoiceOver, on a la possibilité d'activer un zoom et d'agrandir le contenu de l'écran sur sa plateforme mobile.
Il n'y a donc pas de nécessité d'acheter une loupe électronique, par exemple, hein, d'adjoindre le système à la tablette.
Alors ça, c'est une deuxième demande. Il y a effectivement des gens qui se posent la question d'achat. Est-ce qu'il est judicieux d'acheter une loupe électronique portable ? Donc là, on parle de matériel adapté. Alors qu'il existe des applications, que ce soit sous Android ou sous iOS, qui vont transformer ma tablette ou mon smartphone en loupe électronique portable. Donc ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Les loupes électroniques portables adaptées, c'est des appareils relativement onéreux. Les premiers prix vont de 250-300 euros et ça peut dépasser les 1000 euros en fonction de la taille de l'écran et des performances.
Ah oui, donc bien plus cher que la tablette en elle-même ou le téléphone.
Voilà, ou que même...
Sous abonnement, en tous les cas.
Ou que même si l'application payante, ça va revenir à quelques euros. Donc on comprend vite l'intérêt de se poser ce type de questions. Et la réponse qu'on peut donner, c'est qu'on a... même si ces applications peuvent rendre des services ponctuels, on n'a pas le même rendu qu'avec des produits adaptés. Il faut savoir que les produits adaptés, ils sont conçus uniquement pour ce type de tâches. Donc l'optique est adaptée, le logiciel qui est intégré, donc ce qu'on appelle le firmware, est adapté à cette tâche également. Donc le produit est conçu de A à Z pour servir de loupe électronique. Un problème que l'on rencontre sur les plateformes mobiles avec des applications de loupe sont souvent liés en fait à la qualité de l'optique. On a des problèmes également de mise au point. Donc lorsqu'on utilise une loupe électronique, on a besoin d'une qualité qu'on appelle en temps réel, une restitution qualitative de l'image en temps réel. Avec un smartphone ou une tablette, on va avoir des effets de bouger, on va avoir des problèmes de mise au point automatique. Donc lorsqu'on utilise ponctuellement son appareil en le tenant bien droit au-dessus du texte, ça peut aller. Lorsqu'on doit l'utiliser en temps réel pour lire un document, c'est beaucoup plus difficile qu'avec une loupe électronique portable.
Si je vous entends bien, ça veut dire que quand même les deux types de produits ont tendance à se contrarier, plus qu'à s'ajouter.
Alors, c'est se contrarier, c'est pas vraiment le même type, c'est pas le même type
c'est
d'usage.
Pas pareil, c'est
pas la même utilisation.
Faut pas confondre.
On peut comprendre l'intérêt d'installer une application loupe sur un appareil mobile, puisque l'appareil mobile, on l'a a priori toujours sur soi. On a un système avec une caméra et un écran, donc on a en gros la base pour avoir une loupe électronique portable, mais ça n'est pas le matériel et l'optique n'est pas dédié à cet usage unique hein, sur un smartphone par exemple. C'est l'optique est surtout dédiée pour faire de la photographie ou prendre des petites vidéos. Ça n'est pas fait pour servir de loupe électronique portable, donc on ne peut pas avoir le même niveau de performance qu'avec un produit
à la limite
adapté.
Ça peut se compléter, mais faut voir.
C'est un petit peu ça.
J'aimerais qu'on parle des liseuses. C'est tout ce que vous vouliez dire, cela dit. Je ne vous coupe pas l'herbe sous le pied de nouveau.
Oui, alors il existe au niveau des applications.
J'allais dire. J'allais encore faire une bêtise.
Non, mais c'était juste pour rajouter qu'il existe des applications gratuites ou payantes qui permettent d'installer des loupes, enfin une fonctionnalité loupe. Sur sa tablette ou son smartphone.
Pardon.
Faut tester. Quand c'est des applications gratuites, c'est très simple. Hein, il suffit de les télécharger, de les installer.
Et on les teste et on voit.
Et on les teste. On a aussi souvent des applications gratuites avec pub et qui, lorsqu'elles sont payantes, ne disposent plus de publicité, notamment sur les plateformes Android.
Allez savoir pourquoi. Si vous le voulez bien, nous allons nous interrompre. Mais on a encore plein de questions. Moi, je voudrais qu'on parle des liseuses. On va le faire, si vous le voulez bien, après.
Vous écoutez La vie des associations sur Vivre FM.
Il nous reste quelques minutes à passer en compagnie du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants, pour le représenter Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini, à qui je pose une nouvelle question qui concerne les liseuses. C'est vrai que les personnes voyantes peuvent acheter dans tous les magasins qui se respectent, dans tous les bons magasins qui se respectent, ce qu'on appelle des liseuses, hein, c'est-à-dire des appareils qui servent uniquement à lire des livres. Est-ce qu'on a ça chez nous pour les aveugles et les malvoyants ? Est-ce que ça existe, des systèmes aussi basiques ?
Je vais surtout parler de l'aspect utilisation par des personnes malvoyantes. Fernando, je pense, abordera plutôt le côté non-voyance. Effectivement, lorsqu'on va dans une grande enseigne, on peut facilement acquérir une liseuse. Donc une liseuse, c'est quoi ? C'est un appareil mobile qui va permettre de lire des livres électroniques, donc principalement au format EPUB. On a d'autres produits qui ont le même rôle, c'est les tablettes dont on a parlé dernièrement. Donc une tablette possède aussi cette possibilité de lire des livres au format EPUB. La grosse différence qu'on a entre les deux, c'est que les liseuses sont dédiées uniquement à cet usage. Donc en gros, ça ne sert qu'à lire des livres. Souvent, les liseuses utilisent une technologie qui est un petit peu particulière, qui est la technologie e-ink. Donc en fait, ce sont des écrans qui consomment très très peu d'énergie et qui permettent une autonomie très très importante. L'inconvénient de ces systèmes utilisant cette technologie, c'est que le contraste, on est sur des écrans monochromes avec un niveau de contraste qui est beaucoup moins élevé que sur des tablettes, puisqu'on n'a pas d'écran rétroéclairé. Donc on a un niveau de contraste qui peut être insuffisant pour des utilisateurs malvoyants. L'accessibilité pour une personne malvoyante passe aussi par l'agrandissement, évidemment. Donc sur ces matériels-là, on a la possibilité d'agrandir la police de caractère d'affichage. Donc on peut avoir des caractères plus ou moins gros. On va pouvoir modifier également le formatage, augmenter, diminuer l'interligne, etc. Donc là, effectivement, il y a des capacités d'agrandissement et de formatage du texte. Le gros inconvénient, c'est que pour avoir accès à ces fonctions, on passe par des menus. Et ces menus ne sont pas agrandis.
Ah, colossale finesse.
Donc on est un petit peu bloqué. On a la possibilité d'avoir un texte agrandi à l'écran, mais pour pouvoir y accéder, les menus ne sont pas accessibles. Donc on a ce problème-là. Le problème aussi de l'écran monochrome, on ne va pas pouvoir choisir une couleur de texte et une couleur de fond adaptée à ses besoins visuels. Donc là aussi, on revient sur le contraste qui peut être insuffisant. Ces problèmes-là, évidemment, on ne les a pas lorsqu'on utilise une tablette et une application qui va permettre de faire la même chose, en gros, de lire des livres, puisqu'on a des écrans couleurs rétroéclairés et on peut utiliser conjointement aux possibilités d'agrandissement des polices de caractère ou d'amélioration du formatage, l'accessibilité native de la tablette. Donc si elle est sous Android, on va pouvoir utiliser le zoom d'Android. Si on est sur un iPad, on va pouvoir utiliser le zoom de iOS.
Et ça fonctionne très bien et c'est très confortable.
Ça fonctionne très bien. C'est après, au niveau de l'utilisation des usagers malvoyants, faut vraiment, c'est un petit peu compliqué parce que ça va être...
C'est au coup par coup. Enfin, je veux dire, c'est au cas par cas.
Il faut vraiment que la personne teste le produit, vérifie que ça lui convienne bien et trouve les réglages, puisqu'il y a de nombreuses possibilités de réglages, donc trouve les réglages qui sont vraiment adaptés à sa vision.
Donc pas d'appareil dédié, mais une tablette, ça convient très bien selon et avec des applications qui, effectivement, encore une fois, conviennent au confort des personnes malvoyantes. On peut résumer comme ça.
Ça peut convenir à un grand nombre d'utilisateurs malvoyants, mais on ne peut pas généraliser dans le cadre de la malvoyance.
Pour les personnes aveugles, Fernando ?
Alors pour les personnes aveugles, bon, bah j'enchaîne sur ce que vient de dire Jean-Pierre sur les tablettes. Comme on l'indiquait tout à l'heure, on a des lecteurs d'écran qui sont inclus dans les systèmes Android et iPhone, donc on peut vocaliser ces mêmes livres sans aucune espèce de problème. Pour les gens qui ne souhaiteraient pas utiliser des tablettes, là on va tomber pour le coup sur des produits plutôt spécialisés. comme des lecteurs DAISY.
Les Victor Reader et
autres. Voilà, enfin, et autres les... Plexto, Cligno, Milestone, Boxsense.
Dont on a déjà parlé, mais... Donc il est toujours bon de rappeler l'existence.
Absolument. On rappelle d'ailleurs aux auditeurs qui peuvent trouver, s'ils le souhaitent, plus d'informations sur notre site www.certam-avh.com où on a évalué l'ensemble de ces produits. Et donc ces lecteurs DAISY sont en capacité eux aussi de lire les fameux formats EPUB qu'évoquait Jean-Pierre tout à l'heure, qu'on peut du coup acheter, télécharger et voilà, et tout simplement lire.
Très bien, mais il ne nous reste plus qu'à redonner les coordonnées du CERTAM si on veut consulter les fiches des appareils dont
donc,
on a parlé.
Le CERTAM est un service de l'association Valentin 8, 6 au 5 rue du Roc 75 007 Paris, joignable par téléphone au 01 44 49 27 27 et sur notre site internet www.certam-avh.com.
Voilà qui est bien descendu. Merci Fernando Pinto da Silva, merci Jean-Pierre Kerpanini. Bonne fête de fin d'année.
Bonne fête à vous Benjamin.
Et puis en janvier, bien sûr, on se retrouve.
On se retrouve avec Pascal qui va nous parler de GPS.
Parfait. En attendant, vous connaissez le chemin. De toute façon, vous pouvez être là dès que vous le voulez sur l'antenne de Vivre FM.